Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous de l'information. Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point actualité, à Gaza, l'armée israélienne a intensifié ce mercredi ses opérations quelques heures avant une réunion à la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump consacrée à des plans d'après-guerre pour le territoire dévasté. En France, à l'approche de la rentrée scolaire, des milliers d'enfants en situation de handicap n'ont pas de solution de scolarisation adaptée. Nous revenons plus en détail sur cette problématique dans notre dossier du jour à suivre. 28 départements allant des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin sont en vigilance orange pour de violents orages cet après-midi selon Météo France. Une femme est décédée suite à la chute d'un arbre. Ça s'est passé hier dans une tempête en Bourgogne. Et on débute par l'actualité au Proche-Orient, à Gaza. L'armée israélienne a intensifié ce mercredi ses opérations quelques heures avant une réunion à la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump consacrée à des plans d'après-guerre pour le territoire. Israël a annoncé exiger le retrait du rapport soutenu par l'ONU qui déclare la famine à Gaza, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères israélien. Et alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'avait accusé d'alimenter le feu antisémite, Emmanuel Macron a dénoncé une offense pour le pays tout entier. Il a appelé Benjamin Netanyahou à mettre fin à la guerre à Gaza et à stopper la colonisation en Cisjordanie. Et dans un tout autre volet, la Turquie a condamné ce mercredi la reconnaissance du génocide arménien par le Premier ministre israélien en affirmant qu'elle visait à couvrir les crimes commis dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Dans le reste de l'actualité internationale, le retour en Iran des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne marque pas une reprise complète de la coopération sur le programme nucléaire suspendu en juillet, selon le chef de la diplomatie iranienne. L'Iran qui reproche à l'agence de ne pas avoir condamné les frappes israéliennes et américaines qui ont visé ses installations nucléaires. Sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Kremlin rejette l'idée d'envoyer des troupes européennes en Ukraine et laisse entendre qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas prévue. L'Ukraine qui veut des garanties de sécurité de ses alliés avant tout accord pour se protéger d'une future attaque russe qu'elle juge quasi inévitable. Dans un tout autre volet, Emmanuel Macron et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont exprimé leur volonté de renforcer les liens entre les deux pays après un éloignement des nouvelles autorités sénégalaises en 2024. Dans le reste de l'actualité en France, Emmanuel Macron a apporté son soutien total au choix de François Bayrou, le Premier ministre, de solliciter un vote de confiance a priori perdu d'avance devant l'Assemblée nationale le 8 septembre. Septembre prochain sur le désendettement de la France. La CGT a dit souhaiter que le mouvement du 10 septembre soit une première étape réussie et appelle à construire la grève partout où c'est possible, tout en appelant à une autre journée de mobilisation unitaire avec les autres syndicats. Et on reste en France, de nombreuses associations féministes subissent des baisses de subventions qui les obligent à réduire leurs actions auprès des femmes. Une alerte ce mercredi de la Fondation des femmes. 71% des 148 associations interrogées par la Fondation déclarent une situation financière dégradée par rapport à 2024. Et enfin, 28 départements des Pyrénées jusqu'au Bas-Rhin sont en vigilance orange pour de violents orages cet après-midi selon Météo France. Une femme est décédée après avoir été atteinte hier par la chute d'un arbre dans une tempête en Bourgogne. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Des milliers d'enfants en situation de handicap n'ont pas de solution de scolarisation adaptée pour la rentrée. C'est ce qu'indique une enquête de l'UNAPI, un réseau d'associations qui représente les personnes avec des handicaps intellectuels et cognitifs. Selon cette étude, 13% des élèves en situation de handicap et qui sont en établissement spécialisé ne vont pas à l'école. Nous écouterons la vice-présidente de l'UNAPI, Sonia Aéinou. Mais tout d'abord, le point sur cette situation avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, Noël, vous l'avez dit, la rentrée scolaire approche à grands pas. Certains élèves s'en réjouissent et bien pour d'autres, la fin des vacances n'est pas forcément synonyme de réjouissance. Et puis, vous l'avez dit, il y a ces milliers d'enfants privés d'école ou de solutions adaptées. Des enfants porteurs d'un handicap n'auront donc pas d'accompagnement adapté à leurs besoins. L'UNAPI estime que cela se résume souvent pour ces élèves à moins de 12 heures d'école par semaine. Il s'agit d'enfants porteurs d'un handicap intellectuel et cognitif. Et sur ce sujet, je vous propose donc d'écouter la vice-présidente de l'UNAPI, Sonia Aéinou.
Déjà, si nous sommes dans une démarche d'école inclusive et de société inclusive, il faudrait arrêter de traiter les élèves en situation de handicap comme un problème. Un élève est un élève, sans distinction, et c'est un projet de société, un projet de vie et un projet qui doit concerner tout le monde. Cette problématique, elle est liée aussi parce qu'aujourd'hui, l'école n'est pas en mesure de réunir tous les moyens nécessaires structurel, matériel, financier, organisationnel, pour que chaque élève, quel qu'il soit, puisse rentrer dans les apprentissages, développer son autonomie et être scolarisé comme tous ses autres camarades.
Vous aviez lancé un tel cri d'alarme l'année dernière. Des améliorations ont-elles vu le jour ?
Alors oui, effectivement, on a des améliorations qui ont vu le jour, mais encore faut-il aller encore beaucoup plus loin. Alors j'aime bien donner cet exemple de la personne qui a besoin d'une paire de lunettes pour voir. Si on ne lui fournit uniquement la monture des lunettes, ça sera quand même problématique pour qu'elle puisse résoudre son problème. Aujourd'hui, l'école inclusive, on en est là. On fournit beaucoup d'outils, on fournit beaucoup d'annonces, mais le système tel qu'il est aujourd'hui n'est pas suffisamment dynamique et agile pour travailler autour de la scolarisation de tous les élèves, quels qu'ils soient.
Et vous soulignez qu'au mois de juillet dernier, 65% des enfants n'avaient pas de numéro d'identifiant national des étudiants et restent donc invisibles pour l'éducation nationale des enfants en situation de handicap.
Oui, exactement. Ce projet de société commence par ça, par la reconnaissance du statut des élèves. Et cette reconnaissance passe par le numéro d'identification des élèves, comme tous les élèves lambda, quand ils vont aller à l'école et que ça va les suivre jusqu'à la fin de leur scolarité.
Alors, cette scolarisation qualifiée d'inadaptée, est-ce que vous pouvez nous dire comment cela se traduit et qu'est-ce qu'une scolarisation inadaptée pour un élève en situation de handicap, sachant que les handicaps peuvent bien sûr être très variés, même lorsqu'ils portent le même nom, comme l'autisme par exemple?
Oui, alors c'est vrai que vous avez un élève qui a un certain nombre de besoins. En fonction du retentissement de son handicap sur les apprentissages, sur la vie sociale, sur la communication, sur sa vie quotidienne, vous avez des professionnels qui vont intervenir de façon plus ou moins intensive. Vous allez avoir l'intervention d'un enseignant spécialisé, par exemple, ou d'une AESH, un accompagnant des élèves en situation de handicap, qui va permettre à l'élève, par exemple, de lui retransmettre les consignes ou d'écrire à sa place quand c'est une personne qui a des difficultés d'écriture. Et vous avez aussi des élèves qui ont besoin de professionnels pluridisciplinaires qui sont du secteur spécialisé, qui ne peuvent pas intervenir auprès de l'élève parce qu'il n'y a pas de place. Donc, l'accès à ces établissements dits spécialisés génère des listes d'attente. Vous avez un exemple, vous avez Mathias qui attend depuis 5 ans une place en institut médico-éducatif avec des interventions spécialisées. Il a suivi toute sa scolarité en primaire avec l'appui d'un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire dans une école de son quartier. Mais aucune solution ne lui a été proposée pour son entrée en 6e. Donc, vous voyez bien que quand vous avez des déficits ou des lacunes dans l'accompagnement, et même si vous avez un accompagnement nécessaire à un temps donné, par exemple à la rentrée, ça ne vous garantit pas d'avoir une scolarité fluide jusqu'à la fin de votre scolarité.
Lorsque l'on vous entend parler, on comprend qu'il s'agit là d'une discrimination vis-à-vis de ces personnes handicapées.
Oui, c'est une discrimination. C'est que le traitement n'est pas équitable à partir du moment où vous êtes en situation de handicap. Les parents ont un autre chemin que d'autres parents d'élèves. Il faut qu'ils aient des lourdeurs administratives, il faut qu'ils s'occupent de leur enfant quand il est scolarisé de façon très partielle. Tout à l'heure, je parlais de solutions de scolarisation. Ça veut dire bien qu'on traite le handicap comme un problème et non comme un projet. Donc, on apporte des solutions trop partielles, incomplètes ou totalement inexistantes.
C'était Sonia Aéé-Inou, vice-présidente de l'UNAPI. François-Xavier, vous êtes toujours avec nous. Pour revenir sur le sujet, 519 000 enfants handicapés étaient scolarisés à l'école ordinaire à la rentrée dernière, selon le ministère de l'Éducation nationale. Et d'autres sont scolarisés en institut médico-éducatif.
Oui, mais il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, ce nombre avec des pincettes. Illustration avec les propos que nous venons d'entendre de Sonia Aéé-Inou, la vice-présidente de l'UNAPI. Derrière ce nombre croissant d'enfants scolarisés, il y a une qualité d'accueil très variable, des solutions qui ne correspondent pas aux besoins, des enfants scolarisés à l'école primaire alors qu'ils auraient besoin d'une place en institut médico-éducatif. Et elle souligne que 4 410 enfants sont sur liste d'attente pour obtenir une place en IME. En attendant, ils sont soit scolarisés par défaut dans une école ordinaire, soit chez eux. Alors chez eux, hein, vous imaginez ce que cela peut impliquer, notamment pour les parents.
Merci beaucoup François-Xavier de Calonne pour toutes ces précisions. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute. Merci à Bidri pour la réalisation. C'était Nawal El Amouchi. Excellente soirée, suite des programmes sur Radio Orient.